Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville. Ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Le Guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage.
Bilan des constructeurs cette semaine, on va parler de Subaru, qui est un constructeur qui a le vent dans les voiles chez nous.
Yes.
Et bon, évidemment, le Solterra, c'est probablement l'exception, là, j'ai envie de te dire. C'est un produit qui, à mon avis, est un peu brûlé d'avance, bien que j'en vois de temps en temps sur la route, puis ça me surprend tout le temps.
Oui.
Et l'autre produit qui a peut-être un peu plus de misère chez Subaru que les autres, c'est la Ascent. On ne perce pas avec ce produit-là autant qu'on souhaiterait. Mais naturellement que Crosstrek, Outback, ce sont des formules à succès incroyables.
Ça se vend seul.
Ça se vend très, très bien. Ça a des valeurs de revente exceptionnelles. Et ce n'est pas des véhicules qui ont eu une fiabilité irréprochable. On a quand même eu des problèmes côté transmission, côté moteur. La formule qui n'a jamais été imitée par personne, elle est fantastique.
Oui.
Et chez nous, au Québec, ça fonctionne magnifiquement bien. Bon, évidemment, tout ce qui est la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis, si on va aussi du côté du Colorado aux États-Unis, on voit des Subaru partout. C'est une marque qui connaît énormément de succès. Le Forester est peut-être, je ne veux pas dire l'enfant oublié, mais pour moi, un produit qui se vend bien, mais qui ne se vend certainement pas à la hauteur de la compétition qui est CR-V, RAV4, Rogue et tout ça. Et on se demande bien pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il se retrouve pris un peu en sandwich entre la Crosstrek et l'Outback? C'est peut-être une partie de la réponse. C'est un produit qui mérite beaucoup plus de succès qu'il en a. Là, on a vu qu'on redessinait la prochaine génération pour 2025 et qu'on arriverait avec une motorisation hybride empruntée. Donc, une technologie qui va être empruntée à Toyota sans surprise.
Oui, c'est des bonnes nouvelles.
Mais Subaru, ça va super bien. Là. Et d'ailleurs, dans l'industrie automobile au Canada, tous ceux qui ont des... tous les propriétaires de groupes de concessionnaires vont vous le dire, la bannière à avoir dans les marques japonaises, c'est Subaru.
Ouais, la fidélité de la clientèle chez Subaru, c'est extraordinaire.
La fidélité de la clientèle, c'est une chose, une clientèle qui est très facilement renouvelable, c'est-à-dire que tu vas louer une Outback, la clientèle va revenir 2-3 ans après, va être enchantée de constater qu'il n'y a pas de ballon, entre guillemets, là, de perte de valeur sur le produit. Il y a même un gain très souvent. On rachète le même produit, on est très évolutif. C'est une clientèle qui est très cartésienne, mais qui en même temps est très qualifiée. Quand on dit qualifiée dans l'industrie automobile, c'est-à-dire que pas de problème de crédit, c'est une clientèle qui n'est pas compliquée.
Ils ne regardent pas trop le design non plus.
Il y a plus de refus en demande de crédit chez Mercedes qu'il y en a chez Subaru. Là. C'est dire à quel point, parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs chez Mercedes qui sont prêts à dépenser des sommes colossales pour être glamour.
Pour se péter les bretelles,
on va appeler ça un chat. Mais Subaru, tu n'achètes pas ça pour ça. On achète ça, c'est un produit très rationnel. Il y a quelqu'un dans ma famille, moi, qui est très bien fortuné, qui pourrait rouler dans à peu près n'importe quoi et qui achète, qui renouvelle à tous les 3 ans une Subaru Outback de base sans même prendre l'option des jambes d'alliage.
C'est rien de spectaculaire comme produit. Nécessairement, rien de breakthrough, il n'y a rien qui innove énormément. On rentre dans le véhicule, il y a beaucoup de plastique, par exemple. Le système d'infodivertissement, ce n'est pas le plus intuitif, ce n'est pas celui qui est le plus facile à utiliser. On n'amène pas des innovations qui sont extraordinaires, mais on mise toujours sur la reconnaissance de marque, la sécurité chez Subaru, hein, c'est bien important. Et puis, le fait que les véhicules, ils changent pas tant que ça. Comme tu dis, on revient avec un autre véhicule. Le design a changé un petit peu. Quand on a regardé le nouveau Crosstrek, on s'est dit, un petit peu bougé là, un petit peu ci, un petit peu ça, c'est les mêmes affaires.
Le jeu des 7 différences.
Il faut les trouver, mais ils en vendent, puis ils en vendent, puis ils en vendent. Ils ajoutent maintenant, ce qui est bien, c'est justement les variantes Wilder Wilderness qui se propage un peu dans le catalogue. Ça donne un petit peu de edge, puis ça va chercher les quelques clients chez d'autres marques là, qui veulent avoir un petit peu plus de prestance peut-être dans le véhicule, mais là, ça va peut-être piger dans ces clients-là.
On attend la BRZ Wilderness d'ailleurs.
Ben oui,
c'est ça mon soupeux.
Le poisson d'avril.
Quoi que ça pourrait quand même être un petit véhicule assez cool.
Mais non!
BRZ Wilderness, moi, je serais vendu.
C'est ce que j'ai vu passer ce week-end, un gars qui avait monté des pneus de rallye sur sa BRZ, remonté...
Ben comme on a vu ça quelques fois sur des Miata, là, tu sais.
Mais c'est ça, avec un truc sur la galerie et tout, et tu regardes ça, tu fais, merde, ça a
de
la gueule.
Avec un pneu de rechange là, dans la lunette arrière.
C'est exactement ce qu'il avait fait.
Mais moi, ce que je trouve... évidemment, on a parlé de la clientèle qualifiée, du fait que ce soit une marque très réputée avec une clientèle fidèle, mais... 25% d'augmentation de vente en 2023 par rapport à 2022. On sait qu'on a eu des problèmes d'approvisionnement. Là, ça explique une partie de l'équation. Mais dans un marché qui a augmenté de 9,6%, d'avoir une marque qui augmente de 25% sans aucun véhicule hybride, ni véhicule électrique. Oui, on en a un, mais c'est une catastrophe.
Ah ouais, c'est pas un...
Comment on réussit ça? Parce que...
Il n'y a pas de publicité là, chez Subaru. Ils font pratiquement pas de publicité, là, le constructeur. Là, pour
on en fait un peu, mais à quel point on en a besoin?
Oui, c'est ça.
C'est bon. Le Solterra s'est vendu un peu en 2023, va continuer de se vendre en 2024, mais risque de décevoir énormément de clients. Et ça, c'est le truc que je trouve délicat. Parce que si tu es un propriétaire de Forester, que tu roules dans des produits Subaru depuis 10-15 ans et que tu te fais convaincre de passer à un Solterra, vas-tu retourner à un autre produit Subaru après? Ouais. On risque de perdre la clientèle comme ça. Ouais. Ça, c'est l'enjeu.
Tel qu'il est, le Solterra coche pas beaucoup de cases chez cette clientèle-là qui est plus aventurière, qui fait plus de millages, qui va dans des, par exemple, dans des régions plus éloignées où est-ce que la recharge est plus difficile. C'est toutes des coches qui sont pas casées avec ce véhicule-là. Donc, c'est ça qui est difficile, je pense.
Tu sais, on regarde les chiffres, là, Crosstrek, 48% d'augmentation de vente. La Outback, 9,8%. C'est un produit qui avec lequel on se bat tout le temps face aux Américains pour en obtenir un maximum d'unités.
Ouais.
Même la Scent a eu des augmentations de vente, mais pas rien de très impressionnant. Le Forester, ça plante, mais en même temps, c'est un produit qui est appelé à être renouvelé.
L'Impreza, qui a quand même perdu...
L'Impreza, en fait, c'est pas compliqué. Là. Pourquoi t'achèterais une Impreza, honnêtement, quand il y a une Crosstrek à côté? Là?
Moins cher. Puis il y a plus d'espace de chargement dans l'Impreza. Il y a des petites affaires là avec l'Impreza versus la Crosstrek. J'avoue que la Crosstrek
est plus...
Moi,
très honnêtement, habitant en ville, j'irais chercher une Impreza avant une Crosstrek. Ouais.
Jamais. Ça va, pour moi, une Crosstrek, ça va vraiment mieux. J'ai trouvé que sur l'Impreza, les suspensions étaient mal calibrées, ça cogne dur, moins qu'avec la précédente génération.
Ils ont amélioré.
Mais l'autre truc, c'est pas ça, c'est que ta Crosstrek équivalente va coûter 3 500 $ de plus, à peu près.
Oui, à peu près.
Sauf qu'en location, elle coûte le même prix parce que le résiduel est plus élevé.
Mm.
Et là,
Et là
arrive la formule de oui, et on peut vous baisser le paiement à un terme plus court parce que de toute façon, on va vous la racheter plus vite. Mm-hmm. Fait que les gens qui rentrent pour une Impreza ressortent souvent avec une Crosstrek. Fait qu'il y a une cannibalisation qui se crée à même chez un même constructeur. C'est un peu comme ça.
Puis ça c'est le résultat que ça a donné ici.
Puis probablement que c'est ce qui se passe Forester versus Outback aussi.
Mm-hmm.
Parce qu'évidemment qu'il y a des gens qui vont rentrer pour un Forester puis qui vont ressortir avec une Outback. Bon, évidemment, at the end of the day, comme on dit, l'important, c'est d'en vendre un, peu importe lequel.
D'une poche à l'autre, là,
mais au final, 25% d'augmentation de vente chez Subaru et ça risque de continuer avec l'arrivée, évidemment, du Forester qui, là, va être offert en version hybride. Cette technologie-là, si elle est convaincante, forcément se retrouvera dans une Outback, forcément se retrouvera dans une Crosstrek, parce qu'on partage tout là, chez Subaru. Là.
C'est clair.
Alors, c'est un constructeur qui a le vent dans les voiles. Et je trouve ça intéressant, encore une fois, qu'on soit capable de connaître un tel succès, même si on n'a pas vraiment d'intention d'aller jouer dans l'électrique. Ouais, on le fait avec le Solterra, mais pour moi, c'est pas sérieux. Là.
Non, c'est...
Tu vas me dire que oui, s'ils vendent 3000 Solterra cette année chez les concessionnaires, ils vont être bien contents d'avoir vendu 3000 véhicules de plus. Mais encore une fois, ça pourrait faire mal. T'sais, c'est un produit, c'est un couteau à double tranchant, là, vendre ce produit-là. Mm-hmm. Même ouais. Subaru est gêné de le vendre. Mm. Et la preuve de ça, tu le sais toi aussi, Subaru n'a même pas daigné mettre un véhicule Solterra sur le parc presse pour qu'on en fasse l'essai. Mm. Ils ont dit, on met pas ce véhicule-là sur la route cette année à 2023. On va attendre qu'il y ait des mises à jour pour vous le faire essayer en 2024.
Ouais.
Et ce dernier n'est toujours pas disponible sur le parc presse non plus.
Bon, ben, les mises à jour seront pour 2025.
C'est assez fascinant.
Ça sent bien. Ouais.
Essai routier cette semaine, Louis-Philippe, on va parler de la BMW i4. Oui. J'en sors tout juste. J'ai longtemps dit que la Polestar 2 serait la voiture électrique que je m'achèterais demain matin si je devais posséder qu'une seule voiture. Et tu vois, plus le temps a passé, plus j'ai trouvé des petits défauts à la Polestar, incluant l'espèce de sentiment d'être très à l'étroit à bord de cette voiture-là. C'est un peu sombre, c'est un peu lugubre à l'intérieur. Ce sont des trucs qui me plaisent moins. Puis moi, j'aime ça avoir quand même une bonne ergonomie d'ensemble. C'est encore une voiture qui me plaît beaucoup. Mais quand tu conduis la BMW i4, tu fais « OK ».
Ouais. C'est allô la rétroaction là, dans le volant puis la sportivité qu'on retrouve dans la Polestar 2, mais pas autant.
Ben, puis peut-être que tu vas être d'accord avec moi, parce que je sais que tu as essayé la version M50, mais c'est une des rares électriques qui ne fait pas sentir son poids.
Ouais.
Et ça, c'est le truc intéressant. Une voiture électrique, c'est fatigant parce que c'est tout le temps lourd, puis tu te bats contre les lois de la physique, puis c'est dur, c'est suspension, puis bon.
On revient tout le temps un peu avec la même remarque dans ces véhicules-là. On dit oui, la performance, oui, la technologie, mais quand on brasse le véhicule, on ressent son poids. Puis avec des compagnies comme BMW qui sont passés maîtres un peu dans le design du châssis puis de la suspension, puis maintenant qu'ils ont appliqué ces connaissances-là, mais là, on en se retrouve avec un produit qui est beaucoup plus maniable, je pense.
Ouais. Toi, tu as mis à l'essai la version M50. Ouais. Je l'avais mise à l'essai aussi lors de son arrivée sur le marché. Mais ce que j'ai pu rouler la semaine dernière, c'est une X-Drive E40. Donc, un modèle qui n'est pas le modèle de haute performance comme la M50, qui a quand même 4 roues motrices et 394 chevaux, donc beaucoup de souffle. Mais honnêtement, après avoir essayé celle-là, je ne vois pas l'intérêt d'aller à la M50. Mm-hmm. D'autant plus qu'on va bénéficier d'un crédit fédéral de 5 000 $ pour l'achat de cette voiture-là, qui se situe sous la barre des 70 000 $ avant option. Celle que j'ai mis à l'essai coûtait 81 000, mais quand même admissible au crédit.
Admissible.
Et si tu prends un modèle propulsé, e-drive 35 ou e-drive 40, donc 104 roues motrices, qui serait équivalent à une Tesla Model 3 à 2 roues motrices aussi, ben là, tu as le plein crédit de 12 000 jusqu'à la fin de l'année, bien sûr, on en a déjà parlé.
Ouais.
Alors, on n'en croise pas tant que ça, des i4. Non. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'en a pas ou est-ce que c'est parce que tout le monde se garoche chez Tesla? Parce que la Tesla Model 3 est une voiture convaincante, puis il y a tout le hype qui tourne autour.
Ouais, ouais.
Mais quand tu essaies une
i4... C'est pas la même expérience.
Écoute, c'est extraordinaire. C'est solide, c'est dynamique, c'est le fun.
Puis en plus, elle est belle. Tu sais, je veux dire, subjectivement,
tu regardes. C'est quand même.
Chez certains constructeurs allemands, on a été dans des designs qui étaient complètement différents. Pour les voitures électriques, hein, je pense à Mercedes, par exemple.
Ouais. Puis, on s'en doutait pas du tout.
On s'en doutait pas du tout, mais pour BMW, moi, j'en regarde ça.
Le papier sablé a servi un peu trop longtemps, ouais. C'est ça.
Puis, du côté de cette i4-là, ben, tu sais, pour quelqu'un, par exemple, comme moi, qui a eu plusieurs séries 3, de BMW de série 3, ça va aller me chercher tout de suite. Je la regarde, je vais voir, OK, une belle berline allemande, finalement, puis elle est électrique.
Avec cet avantage d'avoir un haillon, ce que tu n'as pas sur une Model 3.
Mm-hmm.
Parce que la Model 3, bien qu'on ait un arrière très élancé, le coffre ou l'ouverture du coffre, devrais-je dire, est très à l'étroit. Ça, c'est un autre avantage de la Polestar 2. Alors, ouais. Mais évidemment que la Polestar 2 pour une voiture aussi spacieuse. Alors ça combine plusieurs avantages, même face à une Ioniq 6, dont le format est très comparable, même que l'Ioniq est un peu plus grosse. Tu as l'avantage d'avoir un haillon ici et c'est solidement construit et ça craque pas.
Mm-hmm.
Pour moi, c'est une électrique franchement convaincante. Ça te fait oublier que tu es dans une électrique, en fait.
Mm-hmm.
Ça,
non, je suis d'accord.
Ça te fait oublier que tu es dans une voiture lourde avec laquelle tu dois faire des compromis en matière de comportement de par son poids. J'ai vraiment trouvé ça génial. C'est la voiture électrique que je me procurerais si je devais m'en acheter une demain matin. matin pour une utilisation de tous les jours là, et que c'était mon seul véhicule, bon, les gens savent peut-être que j'ai une Bolt à la maison. C'est beaucoup plus
pragmatique. Dans le même registre.
c'est beaucoup plus pragmatique et un peu moins passionnant, mais ça fait quand même le boulot.
Ouais.
J'ai quand même un peu moins peur de la poké, celle-là, que la ICA. Parce que ça m'arrive très souvent de la stationner en ville ici et que, bon, évidemment, ceux qui savent où est situé les studios de Cube Radio.
Il y a beaucoup d'achalandage.
C'est pas l'endroit où tu veux laisser ta voiture à tout bout de champ. Cela étant dit, le deuxième véhicule dont on parle aujourd'hui, c'est un autre électrique qui se situe dans le registre de la Bolt, même un peu plus bas, parce que c'est officiellement la voiture électrique la moins chère vendue au Canada en 2024. Je parle de la Fiat 500e. J'ai pu aller l'essayer du côté de Miami, en Floride. Tu auras compris qu'on ne nous l'a pas fait conduire sur l'autoroute à très haute vitesse. Hein?
Et non sur une longue distance non plus.
Non,
très
c'est
longue
ça.
Distance.
Mais cela étant dit, dans un contexte qui était évidemment idéal, faisait 26 degrés à l'extérieur, bon, puis on est en ville, puis tu régénères toujours de l'énergie, puis bon. On annonce une autonomie à 227 km via une batterie de 42 kWh, ce qui donne une consommation que j'ai estimée à 18,5 kWh par 100 km.
Okay.
Ce qui n'est pas impressionnant. Mais je peux déjà te dire que dans le contexte où on était, on faisait facilement 250-260. Tu vas me dire que c'est pas les 400 de la Chevrolet Bolt. Non. Mais cette voiture-là a un coût de revient une fois les crédits appliqués. Transport, préparation, frais de concessionnaire inclus. Les crédits appliqués, c'est 31 700 si tu l'achètes plus taxes. Puis, ils ont travaillé sur la location pour qu'elle soit très attrayante à la location. On annonce la voiture à 90 $ par semaine. J'ai fait le calcul, là, ça revient à 385 $ par mois, taxes incluses, à 18 000 km par année pendant 4 ans. Fait que c'est une des voitures les moins chères du marché, puis tu ne mets pas d'essence. Et tu as quand même une autonomie raisonnable. Et là, vient la question, ouais, mais c'est une Fiat. Puis la réputation de la Fiat.
Tu ne nous as pas laissé le temps de poser la question.
Ben, en fait, c'est ça.
C'est une voiture électrique, là. Fait que c'est, tu sais, on dit chez Fiat, les voitures thermiques, ah non, OK,
mais,
on avait
attends,
ça.
Mais là,
on a une voiture électrique, peut-être qu'on a des chances.
Moi, je me souviens de l'ancienne Fiat 500. Tu t'assoyais là-dedans, puis tu avais l'impression d'être. Tu sais, tu avais l'impression d'être assis sur un petit. Sur un petit banc derrière un comptoir, un petit tabouret, là. Tu sais, puis tu t'en allais, pas d'accoudoir, l'épaule à côté dans la fenêtre, puis bon. C'est plus ça, là. Même si la voiture n'a pas beaucoup grossi, l'habitacle est beaucoup plus spacieux. Tu as une véritable position de conduite. Tu as une console centrale avec un accoudoir. Tu as une super visibilité, hormis le rétroviseur central qui vient gêner un peu ta vision trois quarts avant. Là. Parfois, ça, c'est un peu agaçant. Mais sinon, là, c'est une voiture nettement plus conviviale et j'ai pas le choix de te dire que c'est plus confortable que ma Chevrolet Bolt.
Bon, la suspension. C'est pas difficile à battre.
Ben, c'est pas difficile à battre, mais l'empattement est plus court. La voiture est plus petite.
Oui.
Donc, c'est un défi.
Quand même impressionnant.
Tout à fait.
Et contrairement à la Bolt, il n'y a pas d'effet de couple en accélération. Il y a moins de puissance. C'est 117 chevaux. Mais quand même, il y a une bonne accélération initiale, puis forcément que la voiture va s'essouffler plus rapidement.
Oui.
Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un mode, j'oublie le nom, mais il y a un mode extrême où là, il y a trois modes de conduite. Il y en a un qui est le normal, où tu n'as pas de régénération d'énergie en décélération. Tu ne peux pas conduire à une seule pédale, essentiellement. Après ça, tu as le mode range, où là, ben, tu as le One Pedal Drive et tu as ce troisième mode-là, dont j'oublie le nom, qui, lui, va te permettre d'être vraiment à l'extrême. Là. C'est dans une situation où tu manques d'autonomie, là, tu sélectionnes ça. Vitesse limitée à 80 km/h, climatisation désactivée, impossibilité de mettre le siège chauffant, le dégivreur arrière. Tu sais, je veux dire, c'est le mode.
Tout juste, il n'entend pas la radio.
On ferme la radio, ouais, c'est ça, j'allais dire.
C'est presque un mode tortue. C'est presque un mode tortue, mais ça te permet peut-être d'aller chercher le 20 km qui te manque. Alors, tu sais, j'ai trouvé ça très bien. Et c'est une voiture, comme je le disais, confortable, étonnamment maniable. Le cercle de braquage est à ce point petit que j'ai l'impression qu'elle tourne sur elle-même. C'est à ce niveau-là. C'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est une petite voiture solide. Bon, évidemment que ils ont deux versions. Ils ont la version Red, qui est le modèle à 31 753. Puis là, quand je dis ce prix-là, c'est évidemment, encore une fois, crédit inclus, transport, préparation, frais de concessionnaire.
90
Ajoute 5 000 $ de plus à ça, c'est la version, la Prima. Et là, à ce moment-là, ben, tu as sellerie de cuir, beige à l'intérieur. Tu vas avoir un système audio un peu plus performant, système ADAS avec assistance à la conduite, etc. C'est 5 000 $ de plus. Je ne suis pas persuadé qu'il y a beaucoup de monde qui va aller vers là.
Non.
Mais version de base, c'est rouge, noir ou blanc. Si tu prends ça noir ou blanc, ça vient avec les rétroviseurs rouges. Et si tu prends la version La Prima, ben là, ça vient avec une version bois de rose, la couleur bois de rose qui est un petit peu... qui ne serait pas mon premier choix personnellement, là, mais qui risque de plaire à une certaine clientèle.
Original.
Fait que moi, j'ai l'impression qu'on va en vendre quand même pas mal.
Okay.
Parce qu'en milieu urbain ici, ça va faire la job. Ça va être des voitures qui vont répondre aux besoins de bien des gens. Puis il n'y en a plus des petites voitures.
Mm-hmm. Et est-ce qu'ils ont parlé d'une... Elle existe déjà en Europe, la version Abarth. Est-ce qu'ils ont parlé de la faire venir au Canada ou en Amérique du Nord?
Alors, il n'y aura pas de décapotable. Il n'y aura pas non plus de version avec une troisième portière latérale comme on a en Europe pour des raisons de crash test latéral.
Okay.
Ça passe les normes en Europe, mais ça ne passe pas les normes chez nous en Amérique du Nord. Il y a plusieurs modifications qu'on a dû faire sur la voiture. On a complètement redessiné les phares avant pour que ce soit conforme. Phares avant, feu arrière, lentilles latérales. On a modifié le système de chauffage. Bref, beaucoup, beaucoup de... Ça a coûté cher là, pour modifier la voiture, pour l'amener ici. Mais évidemment que Stellantis a besoin d'une voiture électrique, ça urge. C'est la première d'une longue série.
Ouais.
On sait qu'on s'en vient avec le Wagoneer S et la Charger cette année aussi. Il y aura le Ram un peu plus tard. Mais ça prenait un produit comme celui-là. Et j'ai aussi l'impression, et ça, ils ne l'ont pas dit, mais que ça prenait absolument un produit Fiat pour garder la marque en vie. Parce que sinon, la marque Fiat, ça aurait coûté aux constructeurs beaucoup trop cher.
Beaucoup
le 500X est éliminé. J'ai trouvé ça intéressant, par contre, ce qu'ils ont dit, c'est que c'était le premier véhicule de la renaissance de Fiat et qu'il y a un deuxième produit qui est dans son approche. Alors, quel sera-t-il?
Il y a une 600 qui vient d'être lancée en Europe, qui est un petit peu plus grosse.
Un petit peu plus gros, peut-être un petit peu plus d'autonomie.
Est-ce que ça va venir chez nous?
Ben, regarde, c'est sûr que
Ça s'en va normalement dans cette direction-là.
Si la 500 s'en va un petit succès, ben, la 600, ça sera un choix automatique.
Ouais.
Si ça ne marche pas, ben...
À suivre. Alors, en attendant, pour 2024, il n'y a que le Québec et la Colombie-Britannique qui ont droit à ces produits-là.
Surprise.
Et pour 2025, ben là, on va étendre les ventes au reste du pays. Mais évidemment, à ce moment-là, les crédits au Québec vont être abaissés de 7 000 à 4 000. Et on va apprendre d'ici deux semaines si les crédits fédéraux vont eux aussi baisser avec le dépôt du futur budget. Alors voilà. Merci tout le monde d'avoir été avec nous cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Messieurs, toujours un plaisir.
Bonne semaine.
Merci à tous.
Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.